Bonjour, c'est le Mag sur Tropic FM. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir au téléphone l'artiste de la semaine, Thomas Pithiot. Thomas, bonjour.
Bonjour Michel.
Alors notre première rencontre radiophonique date du jeudi 19 mai 2005. Tu venais de sortir ton deuxième superbe album, La Terre à Toto. Alors, comment a-t-il vécu cet album ? Il a bien marché ?
Écoute, il a assez bien marché, et au moins aussi bien que le premier, et c'est assez bon signe, parce que c'est vrai que souvent quand on fait un petit peu, impression avec un premier album, on peut s'attendre aussi à retomber avec le deuxième, surtout quand on bénéficie pas de renforts médiatiques ou promotionnels. Et puis là, ça n'a pas été le cas, finalement. Il a eu un petit peu le même parcours que le premier, avec un accueil chaleureux du public et des journalistes en général. Mais disons qu'on est dans une continuité assez sereine.
Mmh. Alors, il s'est donc écoulé presque 3 ans depuis notre premier entretien radiophonique. Alors, entre les concerts, l'écriture et l'enregistrement de ton nouvel album Griot, les voyages et les différentes activités que tu as, alors tu ne chômes pas, toi. Ce serait quoi pour toi la définition des vacances?
Ah, les vacances, pour moi, ça correspond à un moment où je vais pouvoir enchaîner un nouveau projet. Voilà, c'est un moment où je vais pouvoir me libérer l'esprit pour inventer autre chose, pour imaginer autre chose. Mais mais j'essaye d'alterner aussi des moments de repos. Mais c'est vrai que les moments de repos correspondent aussi à des moments où je peux écrire, où je peux écouter des choses, où je peux me promener. Mais je ne suis pas un total inactif pendant ces périodes-là.
Alors, comme si ton nouvel album et ton nouveau spectacle ne te suffisaient pas, avec quelques amis musiciens, vous avez créé un spectacle intitulé « Laissez-vous Béranger ». Qu'on a pu voir, nous, à l'espace Albert Camus à Bron, le samedi 21 mars. C'était important de mettre en avant le travail d'un homme, François Béranger, disparu dans le plus grand silence médiatique, il faut bien le dire.
Oui, parce que, Béranger, il correspond aussi à des choses fortes, musicalement et en termes d'engagement, pour moi, parce que il a effectivement réussi à tenir aussi ce pari, finalement, de mener une carrière sans compromis et sans jouer le jeu forcément de la puissance médiatique. Et puis il a toujours dit des choses très très profondes, très en contestation avec le système, et puis toujours avec un regard très sensible, très généreux, très conscient des réalités qui sont celles aussi des plus déshérités, des plus pauvres d'entre nous. Mmh. Et puis effectivement, avec d'autres chanteurs, notamment des compagnons de route à lui, hein, Michel Buller, Geoffroy, et puis une chanteuse qui s'appelle Marie tout court, qui est plus de ma génération, on a décidé de lui rendre cet hommage, et puis de convoquer, enfin d'inviter ses anciens musiciens à nous rejoindre. Donc c'était un beau moment, puis pour le public aussi, qui ne l'avait évidemment pas vu en concert depuis quelques années, fatalement, ils étaient contents de retrouver cette ambiance-là, puis c'était des moments vraiment de communion, des moments de famille, vraiment.
Ouais. Tu as eu l'occasion de le rencontrer, lui, personnellement ?
Rapidement, il avait un petit restaurant chez lui, à Sauve, dans le Sud, ouais. Un jour avec mes parents, pendant un été, on est allé manger là-bas, il nous avait fait une grillade, toujours avec son air un petit peu renfrogné. Ouais. Il était dans le fond du jardin, il faisait des grillades, puis il nous en avait apporté. mais j'aimais bien ce personnage qui ne faisait pas semblant non plus.
Ouais. Alors, François Béranger, à l'image d'un Leprest ou d'un Sarclos, est une référence pour pas mal de musiciens, pour pas mal d'artistes. Il a été reconnu, mais pas du tout connu du grand public, ou presque. On sent une certaine rancœur, une certaine aigreur de ces artistes-là. Le non-succès médiatique provoque forcément des lésions irrémédiables à ce niveau-là.
Ouais, c'est une question assez complexe, la question de la reconnaissance, puisque quand on est un artiste aussi porteur de certaines valeurs d'engagement et de contestation, on est à la fois dans un affrontement avec le système commercial, médiatique, et puis on reste quand même des artistes, des chanteurs qui avons besoin de gens dans la salle, de public, et puis de relais aussi journalistiques, puis besoin d'avoir aussi des retours positifs sur ce qu'on fait. Alors moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis assez soulagé parce que les gens me renvoient des choses positives, et puis un certain nombre de journalistes aussi. Mais je crois avoir tiré un trait déjà depuis un moment sur le star system, sur le show business, sur le gros système médiatique. De toute façon, les quelques fois que j'ai pu l'approcher, il m'a tout de suite donné envie de rendre, mm-hmm. envie de vomir. Et puis voilà, cette espèce de combinaison de l'argent, de la mode et de la manipulation des publics, c'est quelque chose qui de toute façon m'intéresse pas. Alors voilà, il faut savoir aussi où on se place. On peut pas non plus être l'artiste en contestation et puis honnête et puis en même temps vouloir être porté par ce système-là. Donc moi, je crois que j'ai réglé cette question depuis un moment. Même si c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir des gens dans le public, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que j'essaye de construire un fonctionnement musical et professionnel qui me permette d'être dans un rapport plus étroit et plus désintéressé avec le public.
Ouais. Alors tout à l'heure, je parlais de ton nouvel album. Bah, c'est le troisième de ta discographie. Il est sorti le 28 janvier 2008 et s'appelle Griot. Alors, un disque tous les trois ans, t'es réglé comme une papier à musique, toi, ou c'est un pur hasard?
Ouais, c'est un petit peu le temps qu'il nous faut parce que, encore une fois, on est aussi en charge de tellement de choses à côté que quand on sort un album, ça veut dire qu'on s'occupe aussi de la promo, on s'occupe de la prod, de la tournée et tout ça. Quand on est une petite structure et qu'on met la main à la pâte sur toutes ces activités, on ne peut pas se reconcentrer immédiatement sur l'écriture, sur un prochain disque. Donc forcément, ça prend du temps. Et en même temps, c'est le temps aussi qu'il me faut pour voyager, pour me nourrir d'autres choses et pour ne pas être dans la reproduction systématique du précédent disque. Il y a des gens effectivement qui font des disques tous les un an et demi, comme Benabar, par exemple, parce que sa boîte de disques, lui... voilà, l'implore de composer des chansons et des albums tous les 6 mois. En même temps, on voit bien qu'il est dans la reproduction du précédent, puis on perd en qualité, on perd en profondeur, et c'est absolument pas le truc dans lequel j'ai envie de tomber, quoi.
Ouais, il y a Jean-Louis Murat qui s'en sort bien, finalement.
Ouais, Jean-Louis Murat qui devrait regarder un petit peu sur sa gauche pour gagner en humanité.
Ouais, et en sympathie. Alors, toi qui connais bien l'Afrique, tu peux nous dire ce qu'est qu'un griot?
Alors, je connais bien l'Afrique, je connais bien une toute petite partie de l'Afrique, je la connais à ma manière.
Voilà. Un peu mieux que nous, en tout cas.
un griot, c'est un chanteur, un troubadour, c'est celui qui fait partie de la caste des musiciens, des poètes, c'est celui qui intervient avec sa parole et sa musique dans les cérémonies de baptême, de naissance, de deuil, de mariage. C'est celui qui transmet la mémoire d'un peuple, d'une ethnie, dans une société où la culture est orale, et un griot qui meurt, on a coutume de dire que c'est une bibliothèque qui brûle, tant le savoir qui transmet, finalement est un savoir à l'échelle humaine, à l'échelle aussi d'une généalogie, puisque le principe c'est qu'on transmette les choses de père en fils, comme l'apprentissage d'un instrument de musique qui se fait de manière familiale et non cadré, non institutionnel comme chez nous, en conservatoire, en école de musique. Et ça m'a intéressé d'appeler cet album Griot, parce que moi-même, la manière dont j'ai été amené à pratiquer l'instrument, ça s'est fait de manière aussi familiale, par le biais d'une transmission avec les oncles, le père, qui jouait de la guitare, dans une tradition beaucoup plus années 70, hippie baba cool, autour du feu, voilà... entre 2 joints, et ben, on se passait la guitare aussi. Passait la guitare et le joint. Enfin, moi, pas moi, j'étais trop petit. Hein,
bien sûr.
On passe le joint. Mais c'est marrant, ces odeurs de cannabis, quand je les sens aujourd'hui, encore, ça me rappelle l'enfance. C'est curieux, c'est cette mémoire olfactive.
à ta façon, t'es aussi un griot, parce que tu es un dépositaire de l'histoire, qu'elle soit musicale ou du monde. Puis toi aussi, t'es là pour transmettre ce qu'on t'a appris.
Oui, aussi. Puis, ce qui m'intéresse aussi dans le griot, c'est cette liberté de parole à un moment donné dans toutes les sociétés du monde, même si des fois on les envoie au cachot. En tout cas, les artistes sont ceux qui à un moment donné vont pouvoir exprimer une parole de liberté, pour le meilleur ou pour le pire, mais en tout cas qui bénéficient encore un petit peu de ce statut. Et aussi bien les gens que le pouvoir, il va y avoir une attention particulière à ce qu'ils disent. Voilà. Alors il y a des artistes qui ont fait, comment dirais-je, c'est que ce terme. Allégeance, voilà, c'est ouais. Ce que je cherchais. Il y a des artistes qui ont fait allégeance au pouvoir et qui sont les artistes de la cour, comme il y en a encore beaucoup à notre époque. Et puis des gens qui, voilà, qui sont plus dans une tradition de troubadour ou de saltimbanque. Et dans une de mes chansons, je dis qu'il n'y a pas de vrai saltimbanque dans le lit du patron. Entre guillemets, l'artiste, il est là aussi pour porter une pensée critique, une forme de pensée critique et de remise en question de la société dans laquelle on vit.
Mmh. Alors Griot, le nouvel album Sans bon l'Afrique, je dirais, moi j'ai trouvé encore plus que la Terre à Toto, t'es d'accord ou pas?
Oui, c'est un album, parce que pour nous aussi, c'est beaucoup plus abouti, on a beaucoup plus écouté de musique africaine ces dernières années, on est allé jouer là-bas, on a travaillé davantage les sonorités, les rythmes, et c'est davantage maîtrisé. Après, ça reste un album de chansons. Moi, je continue à dire que je fais de la chanson française du monde et pour tout le monde. Mais en tout cas, disons que c'est un album à l'africanité plus assumée, avec aussi un renfort de musiciens maliens, sénégalais, de choristes, d'invités qui nous donnent forcément plus d'authenticité que sur les précédents disques. Mmh.
Alors, on parlait de François Béranger, c'est pas un hasard, bien sûr, si tu reprends avec ton père, hein, Gérard Pithiot, Tranche de vie.
Ouais.
Hein, cette chanson, vous correspondez tous les deux?
Oui, c'est une forme de passerelle et de transmission. Encore une fois, mon père m'a fait découvrir beaucoup de choses en chanson, notamment Béranger. Et puis, on rend tous les deux hommage à Béranger. Et puis, moi, le fait de l'inviter sur le disque, c'est une forme de remerciement aussi direct. Après, les griots aussi fonctionnent beaucoup de façon familiale. Et sont sans cesse dans le rappel, de la généalogie, d'où on vient, qui sont les gens qui nous ont transmis des choses. Mmh. Et effectivement, pour moi, c'est important. J'ai une chanson qui s'appelle « Mes oncles » aussi, qui est un hommage à tous ces messieurs, oncles de cœur ou de sang, qui m'ont transmis des choses à leur manière.
Ouais. Alors, autre invité sur ce nouvel album, celui que l'on rencontre partout, hein, chez les bons artistes, je vais bien sûr parler de Loïc Lantoine, sur la chanson « Ils vendent tout ». C'est lui qui a choisi le morceau ou c'est toi qui lui as proposé?
C'est moi qui lui ai proposé, j'avais écrit cette chanson qui est une chanson très longue, et puis je me suis dit que c'était important de la partager avec un autre chanteur ou une autre chanteuse, et puis comme Loïc fait partie des gens de ma génération, que je respecte, dont j'apprécie le travail, et puis avec qui j'ai créé des liens d'amitié depuis des années, et puis qui pouvait tout à fait se greffer à une forme d'interprétation un petit peu parlée, rythmée, comme ça. Ça m'a fait vraiment plaisir qu'il accepte cette invitation. Mm-hmm. Et puis je crois que c'est un beau résultat, parce que tous les gens me disent que cette chanson les touche beaucoup.
Oui, c'est vrai. Alors, il y a 3 ans, tu avais, sur notre antenne, tu avais vivement conseillé de voter non au référendum sur la Constitution européenne. Alors, évidemment, tout ça a servi à rien, puisque le traité de Lisbonne, pâle copie selon Giscard d'Estaing, et c'est lui qui le dit, a été adopté par les députés français le 7 février 2008. Alors, après ce camouflet politique, la France est-elle encore une démocratie à part entière?
Non, mais la France n'a jamais été une démocratie à part entière. J'ai eu... elle l'est de moins en moins, on pourrait dire. Et puis... Non, on s'enfonce dans le cynisme, dans la négation de ses promesses électorales, dans la manipulation médiatique, dans la désinformation, dans la précarisation générale de toutes les professions et tous les secteurs d'activité. On s'enfonce gentiment depuis quelques années, on continue le processus d'abandon du service public, de l'égalité des chances. On va voir jusqu'où on va aller. Je guette, j'attends et je participe à ma manière à créer de la, comment dirais-je, de la réaction de la part des gens, mais ça tarde à venir.
Mmh. Ouais. Alors justement, en Seine-Saint-Denis, département que tu connais bien, La police de proximité qui avait disparu en 2002 sous le coup de baguette de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, revient sous la forme d'unité territoriale de quartier, hein, sauf qu'il n'y aura plus de matchs de foot. Les policiers auront à leur disposition des tasers et puis des flashballs. Alors la relation entre les agents et la population va être sympa, non?
C'est c'est une relation qui s'est dégradée depuis longtemps déjà, et contrairement à ce qu'on peut dire en disant qu'on est dans un affrontement jeune-police, on est dans un affrontement plus global entre la police et la population. Il y a un rejet massif de la part de toute la population. Alors les jeunes sont en première ligne évidemment, mais je crois que la relation républicaine qui devait nous lier à la police de proximité, plus généralement la police, qui sont, voilà, les policiers sont quand même là pour un service public. Là, on est dans une relation strictement répressive, voire de suspicion permanente, voire dans certains quartiers d'occupation violente ou d'abandon total, ça dépend. Quand on voit les types d'interventions qui est orchestré en ce moment, où on convoque les journalistes pour montrer aussi disons à la télévision que la police est encore présente dans les quartiers populaires. Alors on fait intervenir des brigades de cow-boys, ce qui sert absolument à rien, puisque à chaque fois ils rentrent bredouille, et puis c'est absolument pas comme ça qu'on réintroduit une forme de sérénité dans les quartiers de tension. Ouais, c'est... Moi, j'attends pas grand-chose de la police. Mais je crois que la police est aussi très symptomatique de la manière dont on conçoit la relation à la population et à quel moment on fait bénéficier la population de réels services publics dignes de ce nom. Et voilà, les policiers sont aussi la dernière... limite avant l'explosion. Donc je crois que le pouvoir conduit aussi les policiers à se comporter comme ça. Moi, à plusieurs reprises, j'ai discuté avec des policiers dans mon quartier ou ailleurs qui manifestaient aussi une forme de désolation et d'épuisement par rapport à ces nouvelles missions qu'on leur donne, qui sont exclusivement répressives. Et je crois que les policiers sont quand même des êtres humains, il faut quand même le rappeler. Et ne méritent pas ce qu'ils vivent, voilà, autant que les jeunes. Personne ne mérite ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Mmh. Eh ben merci Thomas Pitiou d'avoir accepté notre invitation.
Bah merci Michel, tu m'as encore conduit vers des réponses politiques. Voilà, tes auditeurs vont me dire oh là là, c'est encore une espèce de chanteur militant qui va nous casser les oreilles tous les 3 ans. Change Ginette, mets énergie.
Oh, un petit Benabar, hein.
Mais oui. Un petit Benabar pour calmer tout le monde.
Alors je rappelle que tu as sorti quand même le 28, pardon, janvier 2008, ton super troisième album Griot, qu'on peut se procurer partout. J'espère qu'on va se procurer assez rapidement celui-là.
Ouais.
On te retrouve sur internet via ton site.
Oui, thomaspitiou.net ou myspace.com/thomaspitiou.
Voilà, il y a plein sur ton billet. T'as un petit blog avec plein de photos et des commentaires plus qu'intéressants.
D'accord.
On rigole beaucoup, bon. Mais des fois un petit peu noir. Et puis le plus important pour nous, tu seras en concert avec notre ami Mathieu Côte au Nikazi K.O. de Lyon, le jeudi 17 avril 2008.
Absolument,
voilà.
À 20h.
Voilà. Thomas Pitiou, bonne chance pour ce nouvel album, bon concert, j'irai...
Michel, merci beaucoup, puis un salut à tous les auditeurs de votre radio, en espérant que je les recroiserai pendant cette tournée griotte.
Voilà.
Je précise que la tournée griotte, ça n'a rien à voir avec la petite cerise acidulée, à partir de laquelle on fait une liqueur pour se casser la tête à la fin des repas. Non, c'est lié à la tradition musicale d'Afrique de l'Ouest, tout simplement.
J'espère qu'on se reverra dans 3 ans pour le nouvel album.
Oui, peut-être avant.
Peut-être avant, j'espère. Eh bien, à bientôt, Thomas.
À très bientôt, Michel.
Au revoir.
Au revoir.